8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est le directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, le CECOP.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jérôme Jaffray.
Bonjour.
De mémoire d'observateur, de mémoire d'analyste de la vie politique, avez-vous déjà vécu un tel chambardement, si l'on en croit les sondages, qui ne sont qu'une photographie à l'instant T?
Il faut remonter très loin, hein. Ça c'est presque de l'histoire politique pour rappeler des choses comparables à ce qui se passe aujourd'hui en termes effectivement de chambardement politique, le mot est juste. On pourrait évoquer le général Boulanger, on pourrait évoquer le colonel Delarocque, on pourrait évoquer De Gaulle et le RPF, ou la percée de Jean-Marie Le Pen au moment des élections européennes de 1984. Voilà à peu près les récits historiques qu'on pourrait établir.
Ça remonte à loin effectivement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, entre les dernières fournées de sondages, Jérôme Jaffray, il y a quand même des différences notables dans les intentions de vote pour notamment Éric Zemmour. Est-ce que vous dites ce matin, soyez prudents?
C'est le moins qu'on puisse dire. Par définition, les sondages, c'est une photographie à un moment donné. Les Français ne sont pas du tout encore dans la décision de leur vote pour l'élection présidentielle. C'est une évidence. Les sondages nous indiquent un climat. Ils définissent aussi la stratégie des acteurs. Tout le monde donc se positionne par rapport à Éric Zemmour. C'est une donnée politique et ça signifie forcément quelque chose.
Est-ce qu'il y a des certitudes qui sont à balayer? Il y a encore quelques semaines, Jérôme Jaffray, l'affiche du second tour était quasiment installée. C'était Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est une quasi-certitude qui vole en éclats.
Voilà. Quand on dit le sondage d'hier indique que Éric Zemmour se qualifierait pour le second tour, déjà c'est inexact. Compte tenu des marges d'erreur, il y a trop peu d'écart entre trois candidats potentiels pour le second tour, Éric Zemmour, Marine Le Pen et le candidat de la droite ou la candidate de la droite qui se qualifierait. D'ores et déjà, mais ça signifie le fait nouveau. Emmanuel Macron ne connaît pas l'adversaire. S'il se qualifie lui pour le second tour, il ne connaît plus son adversaire. Or tout son calcul politique et le calcul politique de La République En Marche, c'était qu'on allait vers un second tour Macron-Le Pen et que le vote anti-Le Pen allait permettre la réélection de Macron. On ne sait plus.
C'est ce que disait il y a quelques instants le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel. On va aller sur la stratégie d'Emmanuel Macron. Lorsque Éric Zemmour, Jérôme Jaffray, proclame qu'il est le candidat de la droite, héritier du RPR, c'est la droite bonapartiste, gaulliste, cette OPA en termes de sociologie électorale, elle vous paraît possible, pertinente?
Au-delà de la sociologie, la réussite de Zemmour, c'est la thématique, c'est les thèmes, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il s'inscrit, il inscrit la campagne présidentielle dans le récit national. Il parle de la France, alors que les autres candidats présentaient des mesures par domaine. Alors ça pouvait aller de la prime pour les heures supplémentaires à comment le salaire net allait être calculé en permettant une hausse. C'est pas le niveau de la présidentielle tel que les Français le voient. Il s'inquiète de la situation de la France, il s'inquiète de l'abaissement du pays, il s'inquiète d'un certain nombre de problèmes fondamentaux. Et donc, que Zemmour... Alors tout le monde, évidemment, n'est pas d'accord avec les idées de Zemmour, mais il place le débat là où les Français souhaiteraient qu'il le soit, et c'est à mon avis la raison de son impact.
C'est-à-dire avec une approche historico-politique, qu'on soit d'accord ou pas, il parle de la France. C'est voilà. Ça son attrait pour vous?
Ça, c'est le point majeur. Et puis, l'idée également, alors là, il s'inspire totalement de Donald Trump, l'idée de reprendre le contrôle du pays sur un certain nombre de points majeurs. Ça, c'est l'idée qu'au fond, sur le thème des territoires perdus de la République, de l'autorité, de l'immigration, de la relation des Français avec la religion musulmane, il y a un ensemble de problèmes du pays qui sont constituent une sorte de nœud et Zemmour est directement là-dessus. Alors là aussi, je dirais les réponses, on peut en discuter et probablement Zemmour est très minoritaire dans les réponses qu'il donne pour
mais
le pays.
Mais pas dans le diagnostic.
Mais le diagnostic intéresse.
Bon, alors le diagnostic intéresse, mais vous dites en même temps, Jérôme Jaffray, je l'ai lu, qu'il est Éric Zemmour mono. Thématique qui ne couvre pas tout le champ large d'une présidentielle. À cet argument, lui-même répond que la présidentielle, ce n'est pas le choix d'un Premier ministre ou d'un ministre du budget. D'ailleurs, vous venez de dire qu'il ne faut pas être trop technique. Donc, aujourd'hui, un candidat, c'est d'abord une vision.
La vision, effectivement, l'a installée, incontestablement. Il y a, pour le moment, assez peu de candidats qui ont une vision. Il y a en plus une usure de candidats qu'on a déjà beaucoup vus. C'est le problème de Marine Le Pen. C'est aussi un peu le problème de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Les candidats qu'on a vus depuis toute une série d'élections attire moins d'intérêt. Bon, cela dit, vous êtes dans un système où quand même, Zemmour bénéficie du fait qu'il n'est pas encore candidat et qu'il n'appartient pas à la classe politique. Ça, c'est deux choses absolument fondamentales. Donc, il est regardé comme une sorte de gigantesque lanceur d'alerte par rapport aux problèmes du pays. Le jour où il se déclare officiellement candidat, et vous remarquerez qu'il ne cesse finalement de retarder ce jour.
C'est son intérêt.
Car il profite du moment.
Bien sûr.
Le moment le sert. Mais le jour où il devient candidat, il rentre dans la classe politique. Et à ce moment-là se pose la question, oui, mais si Zemmour est élu, finalement, avec qui gouvernera-t-il? Est-ce que les propositions, est-ce que ce qu'il envisage de faire répond vraiment aux problèmes du pays? Est-ce que c'est de nature? L'un des problèmes principaux du pays, c'est la cohésion nationale, c'est l'unité du pays. Est-ce que ce que propose Zemmour est de nature à renforcer la cohésion du pays ou à l'affaiblir? Voilà des questions qui vont monter si Zemmour est effectivement candidat, ce qui maintenant est évidemment extrêmement probable, et que le jour où il est candidat et placé vers 15-20% dans les sondages, on posera ces questions.
Je note, Jérôme Jaffray, l'expression que vous avez utilisée. C'est un lanceur d'alerte. Un certain nombre de Français, sans être zémouristes ou zémouriens, sont inquiets pour le devenir du pays et même de la civilisation. Ils touchent du doigt la fin de quelque chose et ne s'y résignent pas. Est-ce qu'ils voient alors Éric Zemmour comme l'électrochoc simplement pour renverser la table, qu'il faut renverser cette table, disent-ils?
Alors, renverser la table, ça fait longtemps que la table est renversée, à la vérité. Hein, depuis la présidentielle de 2017, elle est renversée et les structures politiques ne sont plus les mêmes. Mais du coup, on voit bien les difficultés des partis politiques traditionnels par rapport à ce que vous venez de dire. Et en particulier, les Républicains sont percutés complètement par l'audience de Zemmour et le fait que, renvoyant à un congrès de parti où les adhérents devraient désigner le candidat,
par rapport
à ce qu'est une vie politique aujourd'hui, et à l'image des partis qui est très contestée, ça n'est pas un accélérateur pour le candidat qui serait désigné,
c'est plutôt un frein. Mais ce qui est paradoxal, Jérôme Jaffray, c'est que, vous l'entendez souvent, le pays est à droite pourtant. À droite,
oui.
Ce bloc-là domine.
Et c'est le drame de la droite de gouvernement classique qui est totalement perturbée, elle, par le fait que le pays étant à droite, elle se retrouve spectatrice d'un duel qui s'annonce entre d'un côté plutôt Macron et de l'autre un bloc Zemmour-Le Pen, disons. Et elle serait entre les deux sans représenter les choses. Mais la droite, si vous voulez, de gouvernement traditionnel, elle est aussi percutée dans son logiciel. C'est-à-dire que ce qu'elle mettait en avant jusqu'à présent, regardez, quand on relit le programme Fillon de 2017. Je l'ai fait récemment, mais c'est stupéfiant.
C'est-à-dire pourquoi stupéfiant?
500 000 fonctionnaires en moins, la baisse drastique des dépenses publiques, la baisse du tiers payant, la réduction des remboursements d'assurance maladie. Bref, tout un programme de bonne gestion. Or, la pandémie, le quoi qu'il en coûte et tout ça a balayé ces thématiques. Et maintenant, les candidats de la droite ne savent que vous proposer non plus la bonne gestion, mais des mesures de dépenses publiques supplémentaires. Donc là aussi, la droite n'est plus sur son territoire classique et les Français en plus ne demandent plus la réforme ou la bonne gestion. Les Français de droite ne demandent plus ça massivement. Ils sont effectivement, vous avez raison, bien davantage sur les problèmes de l'unité du pays et comment on résout les crises d'autorité et de cohésion nationale.
Il y a un pôle de stabilité inédit, il faut en parler, mais c'est aussi quand même l'un des enseignements de ces sondages. C'est Emmanuel Macron qui conserve, Jérôme Jaffray, un socle d'une stabilité assez déroutante quand même.
Oui, déroutante, mais pas forcément extraordinairement positive. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, et bon, il est en tête au premier tour, est toujours donné à peu près avec un quart des suffrages exprimés au premier tour. Son score de 2017, mais quelle que soit la donne, quand sa popularité monte, et elle est montée, elle est beaucoup plus élevée que celle de Nicolas Sarkozy, et ne parlons même pas de François Hollande avant 2017, mais ça ne lui profite pas en termes d'intention de vote.
Exact, ouais.
La faiblesse des adversaires, la faiblesse des Républicains, la division de la gauche, tout ça pourrait le faire monter, non. Il reste toujours sur ce niveau étal autour d'un quart des suffrages exprimés. Mais il a l'avantage, Emmanuel Macron, c'est sa force et qu'il essaye de tenir jusqu'au bout, c'est qu'il dépasse les notions classiques de gauche et de droite au moment même où elles sont en crise. Et ça lui permet de balayer large, c'est-à-dire qu'il peut prendre des mesures tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, sans qu'on se dise c'est n'importe quoi, car c'est le fondement du macronisme.
Même si ça, on entend beaucoup plus aujourd'hui les propositions de droite, et ça c'est peut-être la conséquence d'Éric Zemmour qui a imprimé cette campagne. Est-ce que vous voyez, Jérôme Jaffré, une analogie entre les campagnes d'Emmanuel Macron 2017 et celle qui va s'installer d'Éric Zemmour? À l'époque, certains disaient, je m'en souviens ici même dans ce studio, qu'Emmanuel Macron c'est une bulle médiatique. Ils disent la même chose d'ailleurs d'Éric Zemmour.
Oui, on ne peut plus. D'abord, la prudence devrait inviter à ne plus employer ce genre d'expression. Ça veut dire que les présidentielles sont déstructurées. Ça veut dire que les campagnes présidentielles sont devenues des campagnes un peu folles. Vous étiez jusqu'en 2012, disons, sur des campagnes marquées par le gauche-droite classique. Il y avait eu ce qui était considéré comme l'accident de 2002, Chirac-Le Pen. C'était ses sorties qui était la grande surprise, mais sinon c'était très structuré. Nous ne sommes plus dans des présidentielles structurées où les partis politiques, les appartenances gauche-droite dominent le jeu et créent des alternances presque automatiques entre les camps. Et ce que Éric Zemmour a parfaitement compris après Emmanuel Macron de 2017. Et puis le coût politique, à tous les sens du terme, y compris financier, de se lancer n'est plus le même. Avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information, vous êtes dans un système où vous pouvez démultiplier votre présence politique et médiatique sans recourir à un travail militant énorme sur le terrain ou des meetings géants. C'est terminé tout ça.
La gauche, il faut en parler, elle est éparpillée façon puzzle, plus divisée que jamais, ça vous fait sourire, éparpillée de façon puzzle, mais est-ce que c'est la réalité? Avec un risque fort de disqualification sévère.
C'est sûr que la gauche, alors que si vous voulez, il y a quand même des thèmes de demande d'égalité, de justice sociale, d'écologie. La génération climat existe, par exemple, un des problèmes de la droite, c'est qu'elle ne capte plus du tout les jeunes. Les jeunes, je vais jusqu'à 35 ans. Hein. Les jeunes de moins de 35 ans, par exemple, il y en a 5% seulement qui voteraient Bertrand dans un premier tour de présidentiel. C'est donc des scores ridicules. Donc la gauche aurait des atouts. Alors, elle est divisée, mais ce qui me frappe, c'est qu'elle n'arrive pas non plus à installer des thème, un thème qui transcenderait la campagne. Et du coup, elle n'est pas écoutée actuellement, c'est ça la caractéristique.
Il faut dire que par exemple pour Anne Hidalgo, c'est quasiment un crash test. Hein. 35% des sympathisants socialistes seulement, c'est... On est vraiment
alors,
dans le niveau...
La campagne est longue. La campagne est longue, et donc il ne faut pas en tirer des conclusions. Mais le problème de la gauche, c'est qu'on a l'impression que ce qui l'intéresse, c'est la définition de la primauté interne en son sein pour les années à venir. Est-ce que c'est le courant écologiste,
entre
le courant socialiste,
ou
le courant radical de Jean-Luc Mélenchon qui est dominant au sein de la gauche? Ça n'intéresse évidemment pas du tout les Français.
Ce qui est frappant en vous écoutant ce matin, Jérôme Jaffré, d'abord, permettez-moi de vous dire, je pense que Dimitri pense la même chose, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre un moment, une parenthèse pour comprendre, parce que vous l'avez dit, ça devient complètement fou. Et il faut s'y attendre, ça va être ainsi à chaque présidentielle.
Oui, alors ça devient fou. Un moment donné, je veux dire, les électeurs se disent, qui veut-on vraiment comme président? Où se situe vraiment le débat?
Et on ne se pose pas encore cette question, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, ceux qui nous écoutent ce matin, dans leur voiture, chez eux, ne se posent pas encore cette question.
Je disais lanceur d'alerte, c'est aussi le rôle de grand perturbateur de la vie politique. Et c'est intéressant. Par exemple, on dit, Chevènement, les sondages ne valent rien, la preuve, Chevènement, en 2002, était donné à un moment donné à 14%. Oui, mais on ne voit pas derrière ce qui compte. Un Chevènement à 14% en septembre 2001 annonçait finalement les problèmes de Lionel Jospin pour l'élection présidentielle et les difficultés qui allaient venir, et d'une certaine façon également la montée souverainiste à droite qui allait également favoriser Jean-Marie Le Pen. Donc derrière, quelque chose qui à un moment donné peut effectivement baisser, Éric Zemmour peut-être finir à 7 ou 8% dans les urnes en avril prochain, s'il est candidat, c'est parfaitement possible. Et à ce moment-là, on nous dira, il était à 17% à un moment donné, mais il annonce que, par exemple, le débat de la présidentielle de 2022 est en train de s'orienter sur est-ce qu'on veut un repli national, comme le propose par exemple Éric Zemmour, ou est-ce qu'on veut une ouverture de la nation sur le monde, que propose par exemple Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ça structure le débat, et par ailleurs, ce qu'indique la percée d'Éric Zemmour, c'est la montée de la droite extrême par rapport à la droite classique, et là c'est un changement politique majeur.
Donc il est un signe annonciateur de grands bouleversements. On reprend notre terme de chambardement pour clore cet entretien. Merci Jérôme Jaffré de nous avoir éclairé, j'espère également les auditeurs en cette période un peu troublée. Merci à vous.